Bonsoir à toutes et à tous. Là, on va faire une ambiance cosy pour pouvoir aborder ensemble donc ce thème autour de ce livre de Françoise Dubourboissière, de la maltraitance à la bientraitance. Voilà. Alors moi, si je me retrouve associé ici, c'est parce qu'à l'occasion de ce livre, je me suis retrouvé à faire la préface. Voilà, donc Jacques Fauché a fait la préface. J'en dirai quelques mots tout à l'heure sur les enjeux éthiques. Moi, je suis donc directeur de l'espace biotique Aquitain et j'interviens pas mal sur les questions d'éthique. Et c'est vrai que, comme on a vu la question de la maltraitance, pour essayer d'éviter les événements maltraitants, comme on dit, et essayer de développer la bientraitance, on a vu se développer beaucoup ce thème, des groupes aussi, donc de lutte contre la maltraitance pour développer la bientraitance. Donc ce livre est bienvenu. Voilà. Donc merci Françoise Boissière de nous avoir permis de faire un peu un état des lieux, une réflexion sur cette question-là, de manière, je trouve, à la fois, j'allais dire, assez approfondie, tout en étant facile à lire. Je trouve que c'est très agréable. Il y a beaucoup d'exemples. On voit bien que vous êtes formatrice donc, sur ces questions-là, avec connaissant donc, pas mal les soignants. Donc je crois que c'est très important pour tout lecteur, mais en particulier pour les soignants, que ça les rejoigne sur toutes les petites questions au quotidien. Si on pense toujours aux grands événements maltraitants, mais c'est toujours le jour. Et ça, je crois que tout ce travail sur la maltraitance nous a permis de bien nous en rendre compte. Donc tous ces petits événements, tous ces exemples-là, donc, c'est tout au long du livre, c'est ponctué d'exemples qui nous montrent bien que ça vient de mille et une formes. Même quand on se croit bien traitant, même quand on croit qu'on maîtrise bien tout ça, eh bien, il suffit d'un mot, il suffit d'un geste, il suffit d'une lassitude aussi, vous le dites bien aussi, c'est parfois lié à la fatigue des soignants. Votre livre précédent, c'était sur le stress des soignants. Donc ce livre fait un peu la suite, prend un peu la suite de cette affaire-là. Vous parlez bien sûr des patients ou des usagers, mais également aussi des soignants. Et je trouve que quand on travaille sérieusement sur cette question de la maltraitance, qu'on essaie de développer des ateliers pour développer la bientraitance, c'est bienvenu. Alors, je pense que je vais vous donner la parole assez vite pour que vous présentiez peut-être un peu ce livre à ceux qui sont venus. N'hésitez pas à poser des questions, voilà, parce qu'on va essayer d'être attentif à vos questions. C'est le but aussi d'une réflexion sur la bientraitance. N'hésitez pas à poser des questions à partir de là où vous êtes, de vos expériences professionnelles, personnelles, d'usagers, du système de santé. On est là pour essayer de mieux comprendre la problématique. Et bien sûr, surtout, de voir comment on pourrait développer la bientraitance. C'est un effort de tous. On a tous besoin de faire des petits efforts. Il y a des établissements qui posent des gros problèmes. Alors, il y a deux établissements qui sont donnés en exemple, en contre-exemple et en bon exemple, Le Bon Repos et Au Beau Soleil. C'est très, très amusant. Il y a beaucoup de clins d'œil. Alors, Le Bon Repos, je ne vous dis pas tout ce qui s'y passe. Et Au Beau Soleil, on rêve un peu. Mais manifestement, on voit que c'est lié aussi à des exemples que vous avez...
Du vécu, voilà. Ouais.
Donc, on voit bien que ces deux exemples-là, un peu en opposition, on essaie d'être entre les deux et assez proche du beau soleil, mais c'est pas toujours réussi. Donc voilà, je vous donne la parole pour vous présenter avec vos mots votre livre, et puis on en parlera ensemble.
Bon, mais bonsoir, moi je suis contente d'être avec vous, je suis contente aussi que Jacques Fauché soit avec moi pour cette conférence, d'autant plus que c'était important pour moi qu'il fasse la préface, puisque c'est vrai que la bientraitance et l'éthique, ça me paraît des choses qui sont très... qui sont similaires, quoi. Je crois que c'est vraiment, pour moi, il ne me serait pas venu à l'idée de ne pas parler de l'éthique en parlant de la bientraitance. Voilà, donc je suis très honorée d'être auprès de Jacques Fauché ce soir. Voilà, je m'appelle donc Françoise Boissière et comme l'a dit Jacques, je suis formatrice, mais infirmière de formation initiale. Et c'est vrai que, donc encore beaucoup sur le terrain, pour mes raisons de formatrice, mais aussi par rapport à mon métier d'infirmière ou de cadre. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de faire des ponts justement avec tout ce qui est sur le terrain et aussi le mettre un petit peu plus en théorie après et après de la théorie à la pratique. Voilà. J'ai écrit un premier bouquin qui s'appelle « Les soignants face au stress ». En effet, c'était mon premier livre et c'était important pour moi de parler du stress du soignant avec l'épuisement professionnel, le burn-out. Il a été édité en 2002 et j'ai eu envie donc de faire une suite à ce livre en effet, et donc j'ai trouvé intéressant donc de parler d'un sujet en plus qui est très actuel, de la maltraitance à la bientraitance. Voilà. Dans l'approche de ce livre, je vais vous le présenter un petit peu au niveau des chapitres, mais c'est vrai que c'est un livre qui pour moi est un moyen de... Enfin, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. C'est plutôt d'amener des questionnements, puisque quelque part, s'interroger pour aller vers la bientraitance, c'est un questionnement permanent. À chaque fois qu'il y a une situation, c'est d'essayer d'être le plus bientraitant possible pour être le moins maltraitant possible. C'est-à-dire que le mot bientraitance et le mot maltraitance, en tant que tel, ce sont des mots qui n'existent pas. Il y a être maltraitant, être bien traitant, et c'est donc plutôt des tendances, c'est plutôt une philosophie. Enfin, pour moi, c'est comme une philosophie. C'est-à-dire que je tends vers la bientraitance, voilà. Et je peux très bien ne pas être maltraitant, mais pour autant ne pas être bientraitante. Voilà. Hein, contrairement à des fois ce qu'on dit, la bientraitance et la maltraitance ne sont pas contraires. Voilà, hein. Je peux me dire, tiens, à ce moment-là, j'ai été bien traitante par rapport à cette situation, mais pour autant, c'est pas pour autant que je suis toujours bien traitante. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'acquis. Hein, c'est quelque chose qui est toujours, c'est une démarche active qui est individuelle. Donc chacun avec ses proches ou avec les gens avec lesquels on s'adresse. Donc une démarche individuelle, mais aussi une démarche collective. Voilà, c'est les deux. Voilà, et c'est en permanence en questionnement. Voilà, hein, donc, et c'est ça qui m'a intéressée d'écrire dans ce livre. Et comme l'a dit Jacques, j'ai essayé de l'entourer de beaucoup d'exemples que j'ai rencontrés sur le terrain ou que des stagiaires m'ont évoqué donc, lors des formations que j'anime. Voilà, hein, ça a été un petit peu la base de ce livre. Alors juste, je vais vous le décrire, ce livre, comment j'ai procédé. Ça m'est difficile de faire beaucoup de théorie. Je suis plutôt quelqu'un de très pratique. Et donc, j'ai eu cette idée, c'est de faire une fiction. Alors en effet, j'ai fait une fiction donc, de deux établissements. Une fiction donc, d'une maison de retraite que j'ai voulu idyllique. Et j'ai fait exprès de choisir la maison de retraite, enfin l'EHPAD idyllique, parce que dans un premier temps, c'est quand même souvent les EHPAD qui sont un peu la cible de choses de maltraitance, etc. Et donc j'ai voulu un petit peu faire un peu le contraire et montrer aussi qu'il y a des EHPAD qui peuvent être aussi très bien traitants. Et puis j'ai choisi donc une autre structure qui est un peu à la mode en ce moment, c'est les services de soins de suite. Et donc c'est mon choix a été volontaire de choisir un service de soins de suite qui était justement lui plutôt dans la maltraitance. Voilà. Ceci dit, ce sont des fictions qui sont inspirées quand même d'un ensemble de cas concrets qui m'ont été rapportés ou que j'ai rencontrés. Lors de ces deux fictions, j'ai donc fait un déroulement d'une journée. Et là, j'ai donc avec plein d'exemples qui se passent tout au long de la journée, donc vous lisez comme un roman. Et après, j'ai donc fait parler les personnages qui étaient dans cette fiction. C'est-à-dire, donc il y a eu la version du soignant qui raconte un peu comment s'est déroulée cette journée, mais il y a aussi donc la version du résident ou du patient, la version du directeur, la version des collègues, la version de la stagiaire, etc. Voilà. Puisque quelque part, la maltraitance, la bientraitance, ça concerne tout le monde. Voilà. Hein. Et tout le monde peut maltraiter. Hein, c'est-à-dire que souvent, on parle de la maltraitance du soignant vis-à-vis du patient. Mais ce que j'ai voulu aussi mettre en avant, c'est qu'il y a la maltraitance donc du soignant vis-à-vis du patient, il y a la maltraitance du patient vis-à-vis du soignant, il y a la maltraitance des soignants entre eux, des professionnels entre eux, il y a la maltraitance de l'institution par rapport aux professionnels, il y a la maltraitance des professionnels par rapport à l'institution, enfin, par rapport aux familles, les familles, enfin, etc. Tout le monde peut être concerné. Et il y a la maltraitance avec soi-même aussi. Et là, ça revient un peu sur mon premier bouquin par rapport à l'épuisement professionnel. hein, ou aussi c'est une forme de maltraitance envers soi-même, d'aller jusqu'à l'épuisement professionnel, d'aller jusqu'au bout de nos limites et de plus en pouvoir à son détriment et malheureusement au détriment des autres. Voilà, hein, donc, et c'est ça que j'ai voulu évoquer dans le livre. C'est aussi, donc voilà, pas que cibler la maltraitance du professionnel par rapport au patient. Voilà, qui existe bien sûr, mais il y a d'autres formes. Voilà, hein. Donc j'aurai l'occasion, je pense, d'en parler après. Voilà. Donc la première partie, c'est les deux fictions et c'est donc un peu un moyen de... d'entendre parler les acteurs, voilà, puisque ce qui m'a donné cette idée, c'est que la question qu'il faut se poser toujours, si je suis bien traitante ou si je suis maltraitante, la question que je dois me poser quand je fais quelque chose ou quand je m'adresse à quelqu'un, c'est est-ce que ce que je fais à cette personne, ce que je dis à cette personne, j'aimerais qu'elle me le dise ou qu'elle me le fasse ? Ou est-ce que j'aimerais qu'à mon père ou à ma mère, on lui fasse ça, ou j'aimerais à mon fils ou à ma fille qu'on lui fasse ça ou qu'on le dise. Et donc, du coup, l'idée de ces fictions, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une façon de se mettre dans la peau de tous les personnages qui vivent cette journée, donc que ce soit au beau soleil ou au bon repos. Puisque si je me pose, à chaque fois que je fais des actes auprès d'une personne ou que je parle avec une personne ou avec l'équipe et tout, je me pose ces questions, ben, j'ai des grandes chances que je sois plus dans la bien-traitance. C'est le fait que je ne me pose pas du tout ces questions. Je vois encore, aujourd'hui, là, je suis dans une structure, aujourd'hui et demain, dans une structure là, où je fais une formation assez longue, justement, sur la bien-traitance. Et il y a une des personnes, une des aides-soignantes, qui me dit, donc, justement, elle a donc dit à sa collègue, mais est-ce que tu aimerais, toi, qu'on fasse ça à ton père, ce que tu viens de faire ? Et là, sa collègue lui a dit, de toute façon, je n'ai plus mon père, alors le problème, il n'est pas là. Voilà. Donc là, ben, il y a du travail. Hein. Comme quand j'entends aussi des fois, parce que je travaille beaucoup auprès des EHPAD, comme des fois, il y en a qui me disent, moi, de toute façon, moi, je n'irai pas en EHPAD. Alors, je leur pose souvent la question, est-ce que vous croyez que la plupart des résidents qui sont dans cette structure se sont dit à 40 ans, tiens, je vais économiser pour avoir suffisamment d'argent et après pour aller en EHPAD ? Est-ce que j'envisage qu'un jour, je vais perdre la tête ? Est-ce que j'envisage qu'un jour, je ne pourrai pas me servir de mes jambes ? Non, je ne crois pas. Je crois que chacun ne peut pas se projeter en se disant « Tiens, il va m'arriver ça, etc. » Malheureusement, on ne sait pas ce que la vie va nous réserver. Ce que je crois, par contre, souvent, et que je dis aux stagiaires, si peut-être que nous, on n'ira pas en EHPAD parce qu'on n'aura peut-être pas les moyens de se payer l'EHPAD. Peut-être ça, oui, mais peut-être que, justement, on restera dans notre coin et, justement, peut-être qu'on manquera de soins ou de choses comme ça. Et il y aura aussi de la maltraitance, justement, parce qu'on risquera d'être isolé ou je ne sais pas. Enfin, à mon avis, il y aura d'autres dispositions qui vont se faire, hein, mais voilà. Donc, dans la première partie du livre, j'ai trouvé ça intéressant qu'on se mette dans la peau de tous les personnages. Voilà. Et que c'est un ensemble aussi. J'ai remarqué dans les structures où je vais que quand il y a de la maltraitance, il n'y a pas que dans un sens. C'est-à-dire que j'ai remarqué dans un établissement où il y a par exemple des soignants qui maltraitent des patients ou des résidents, il y a l'institution qui maltraite les soignants, il y a l'institution qui maltraite la formatrice que je suis, il y a les familles qui maltraitent l'institution. Enfin, et j'ai remarqué que souvent... Ce n'est pas un cas particulier, c'est un ensemble. Voilà, hein. Souvent, il y a des dérapages partout. Et quand il y a de la bien-traitance, quand on va vers la bien-traitance, souvent aussi d'ailleurs, il y a de l'attention pour tout le monde, il y a du respect, il y a... voilà, puisqu'on va le voir après par rapport à quoi ça correspond, la bien-traitance. Voilà. Donc voilà la première partie du livre. La deuxième partie du livre, ben, j'ai voulu partir de la maltraitance. Hein, donc la deuxième partie parle de la maltraitance, donc toutes les formes de maltraitance. Alors ce qui m'a juste un peu ennuyée, je crois que je l'ai précisé plein de fois, j'aime pas mettre les choses dans les cases, c'est-à-dire dire voilà, ça c'est une maltraitance physique, ça c'est une maltraitance psychique, ça c'est... Parce que souvent, malheureusement, c'est un ensemble de choses, hein, c'est-à-dire que si par exemple... le non-respect de la douleur, la non-entente de la douleur ou la par exemple de la pudeur ou des choses comme ça, c'est psychique, c'est de la maltraitance psychique, mais c'est aussi de l'atteinte à la dignité, c'est aussi voilà. Donc en réalité, c'est un ensemble de choses. Hein, donc dans l'idée, c'est pas de dire tiens moi je suis dans cette case, etc. Dans l'idée, c'est de savoir que malheureusement la maltraitance peut faire plusieurs. Pour un même acte, il peut y avoir plusieurs sortes de maltraitance. Voilà. dans l'idée, c'était un peu ça, mais c'est bien quand même de nommer un peu les choses, hein, parce que ça donne des repères. Et pourquoi j'ai eu envie de faire ça quand même, j'ai oublié de le dire au début, c'est que souvent, dans les établissements où j'allais, les professionnels me disaient... Est-ce que ça, c'est de la maltraitance? Est-ce que ça, c'est de la bientraitance? Beaucoup de gens se demandent, est-ce que ça, c'est de la bientraitance? Est-ce que ça, c'est de la maltraitance? Et parce que souvent, au niveau de l'institution, on leur dit, attention, vous êtes maltraitant, attention, vous allez avoir un avertissement, attention, voilà. Et du coup, ils ne savaient plus quoi faire, voilà. Or, en réalité, les choses ne sont pas figées. C'est à l'instant, là, l'idée, c'est d'essayer d'être le moins maltraitant avec les moyens qu'on a pour aller vers... le plus de bientraitance. Voilà. Hein, mais vraiment, enfin, ce qui m'importe beaucoup dans ce livre, c'est que de ne pas figer les choses. Voilà, hein, c'est vraiment quelque chose qui est en mouvance et en réflexion permanente. Et aussi parce que si je suis en réflexion permanente, quelque part, ça veut dire que donc, ce questionnement va m'amener à enrichir mon travail, à aller vers des ouvertures, à pouvoir en discuter avec mes collègues. Et donc, ça ne pourra être que bénéfique pour tout le monde. Voilà, hein. Quelqu'un qui me dit, de toute façon, moi, je suis comme ça, je ne changerai pas, ça a toujours été comme ça. Je vais être très, très inquiète dans ça. Hein. Quelqu'un qui va me dire, oui, c'est vrai, j'ai tendance à être un peu speed. Oui, c'est vrai, j'ai tendance à ça. J'ai toujours eu l'habitude de ça, mais maintenant, j'aimerais aller vers... Ben, déjà, je me dis, ben, c'est bon, quoi. Voilà, hein, je crois que ça, c'est vraiment important. Donc, la deuxième partie, sujet maltraitance. Voilà. Alors, il y a toutes sortes de choses. C'est un peu pessimiste, parce que, avec plein d'exemples. Alors, et puis aussi, je parle beaucoup des maltraitances qu'on appelle ordinaires, hein, ou tout ce qu'on appelle négligence. Il faut savoir que des fois, hein, tous ces... Beaucoup de négligences ordinaires sont presque plus graves des fois qu'une grosse maltraitance. Non, c'est-à-dire que c'est vrai que cet après-midi, c'est ce que je disais. Je disais, bon, quelqu'un, brusquer quelqu'un, c'est évidemment de la maltraitance. Mais brusquer quelqu'un une fois, alors que ne pas mettre la sonnette, ne pas cogner, laisser la personne nue, ne pas changer la personne, etc., c'est presque même plus grave finalement, parce que c'est quelque chose qui dure, c'est quelque chose qui use la personne, qui perd l'estime de la personne, la dignité de la personne. En tout cas, ça risque d'avoir plus de conséquences après sur la personne qu'éventuellement une fois j'ai bousculé la personne. Bien sûr, hein, le mieux c'est de rien faire, hein, que les choses soient claires. Mais c'est quand même, c'est aussi l'accumulation de petites maltraitances, si on peut dire petites maltraitances, de négligence qui peut malheureusement perdre une personne. Hein, parce que pourquoi parler de la maltraitance? C'est que la maltraitance tue à la longue. Voilà, hein. Tue au niveau moral, mais aussi des fois au niveau physique, etc. La personne, hein, parce que souvent les personnes qui sont maltraitées vont pas oser le dire, elles vont avoir peur. Il faut savoir qu'on a commencé à parler de la maltraitance dans le monde de l'enfance. Voilà. Ensuite, ça a été dans le monde des handicapés et après, ça a été un peu développé auprès des personnes âgées. Et maintenant, on en parle dans différents endroits. Hein, voilà. Le plus de maltraitance qu'il y a, c'est à la maison, à domicile. Après, c'est dans les institutions la nuit, parce que c'est souvent dans les choses cachées, quelque part. Quand il y a du monde qui circule, on entend quelqu'un crier, on entend, voilà, il va y avoir toujours quelqu'un qui va être là, qui va être témoin, ou qui va pouvoir soulager la personne aussi. Puisqu'il faut savoir que des fois, on devient maltraitant parce qu'on est usé, parce qu'on n'en peut plus. Alors, si moi, je sens que je suis usée, ben, je vais peut-être, à ce moment-là, demander à mon collègue, tiens, Jacques, est-ce que tu pourrais venir, parce que là, j'en peux plus. Si je suis toute seule la nuit... Hein, c'est pour ça que maintenant, il y a encore quelques établissements où les gens sont tout seuls, mais ça devient de plus en plus rare. Si je suis toute seule, eh ben, il faut que je fasse face, et face avec ce que j'ai, avec mon épuisement, avec les conditions de travail, etc. Donc plus il y aura de personnes qui gravitent aussi, moins il y a de maltraitance aussi, hein, puisqu'il y a plus de regards et puis il y a plus de moyens de passer le relais aussi, voilà. Donc voilà, deuxième chapitre, la maltraitance. Hein, je pense qu'on aura l'occasion, hein, avec vos questions et puis avec ce que Jacques va dire aussi. Hein, voilà. Et puis ensuite, et il faut savoir aussi qu'une des causes de la maltraitance, c'est donc l'épuisement professionnel. Voilà. Si je suis épuisée, je ne peux pas être bien traitante avec les gens, puisque j'en peux plus. Voilà, hein. Et je suis pas bien traitante avec moi. Donc continuer à travailler, si je suis en épuisement professionnel, c'est de la maltraitance pour les autres, mais pour moi-même aussi. Et ça n'aboutit à rien du tout. Voilà. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est très important de signaler. Hein. C'est être maltraitant envers tout le monde. Hein. Et avoir des professionnels aussi qui sont en épuisement, c'est important aussi que l'institution puisse faire quelque chose, puisse aider cette personne qui est en difficulté. Hein. Puisque souvent, quand même, il faut savoir que les personnes qui tombent en épuisement professionnel, au départ, c'est souvent des gens qui ont des idéaux tellement élevés qu'ils vont à fond, ils vont à fond, ils vont à fond, ils vont à fond. Et malheureusement... ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas assez de moyens. Malheureusement, ben, les gens meurent quand même, les gens sont pas contents, les gens. Et donc, du coup, ben, ils revoient leur copie et puis, du coup, ben, ils banalisent. Ils disent, de toute façon, à quoi ça sert que je le change? De toute façon, il faudra que je le change en 3 heures. Est-ce quoi, voilà. Et ils vont commencer à rentrer dans de la maltraitance et parce qu'ils sont fatigués et qu'ils préfèrent rester assis parce qu'ils n'en peuvent plus que de se lever parce qu'il y a une sonnette qui sonne, etc. Hein, c'est un petit peu ça. Alors, je vais un peu vite hein, dans le schéma, mais c'est quand même les grandes causes et le grand principe de la maltraitance, en tout cas en institution. Et la troisième partie, c'est la note positive, hein, c'est le chemin vers la bientraitance, parce que tous, à des moments donnés, on est bientraitant, et Dieu merci, et c'est bien, voilà. Hein, et on voilà, essayer de faire le mieux possible avec les moyens qu'on a, avec voilà. Et la bientraitance, j'ai aussi insisté évidemment par rapport à ça. Bien sûr que c'est important tout ce que l'institution peut proposer au niveau des conditions de travail, etc. Mais c'est pas que ça, c'est aussi chacun. Quand je rentre dans une chambre, pensez à cogner. J'ai vu dans une maison de retraite, j'étais étonnée là dernièrement, il y a des sonnettes. À chaque fois qu'on rentre dans la chambre d'un... D'ailleurs, ils appellent ça des studios. On sonne. Et ben, je trouve que c'est bien parce que symboliquement, ça montre bien que je rentre chez l'autre, que je rentre dans l'intimité, etc. Voilà. Alors, on n'en est pas là encore dans les établissements d'avoir des sonnettes à chaque fois, mais c'est prendre conscience que quand je rentre dans la chambre de quelqu'un, je rentre dans son intimité, donc au moins attendre que la personne puisse me répondre et pas déjà ne pas cogner et au moins attendre un laps de temps et prendre conscience que là, c'est pas chez moi que je rentre, hein, c'est chez la personne. Hein, voilà. Et ça, c'est très important par rapport à la dignité de la personne, voilà, puisque au niveau de la bientraitance, hein, la dignité, évidemment, c'est très important. Voilà, donc ça, par rapport à la bientraitance, alors évidemment, et ça, je vais laisser Jacques en parler par rapport à ça, tout ce qui est la sollicitude, etc. Ça, je crois que c'est un sujet qui est très important. Et aussi, par rapport à la bientraitance, c'est prendre soin de soi aussi. Penser en tant que soignant, en tant que professionnel de santé, même si finalement ça m'intéresse de m'occuper de l'autre, c'est aussi penser à prendre soin de soi et à s'occuper de soi. Je vois tout à l'heure, là, cet après-midi, dans la structure où j'étais, j'ai proposé, donc, parce que je fais beaucoup de massages, de choses comme ça, des massages courts, et donc pour montrer, pour qu'après, elles puissent le faire auprès des patients, enfin des résidents, je leur dis le mieux, c'est qu'on vous le fasse et que vous le receviez. Et ben c'est incroyable, encore dans le groupe, là, c'était un groupe, elles étaient 9, il n'y avait que des filles. Il y en a 3 qui ont dit, moi, je veux bien le faire, mais non, je ne peux pas le recevoir. Voilà. Hein, donc ça, je me dis encore, hein, elles n'ont pas l'habitude de recevoir, qu'on s'occupe d'elles, etc. Alors, je reviens demain dans cet établissement. Alors, je leur ai dit, bon, ben, on verra demain un peu. Et c'était le massage des mains, hein, c'est pas bon, le dos, enfin, ou des choses comme ça, qui sont des parties plus intimes, etc. Voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup, malheureusement, de professionnels qui vont plus presque donner un maximum d'elles et pas penser de temps en temps à prendre soin d'elles. Voilà, hein. Donc ça, c'est malheureusement aussi, c'est dommage. Et c'est pour ça aussi j'insiste sur la bientraitance du soignant et soi-même aussi. Et pourquoi je vais dire ça? Je vais donner un exemple aussi. Par exemple, dans une maison de retraite ou un résident, et c'est sa maladie, il va griffer la soignante pendant qu'elle va faire la toilette ou je ne sais quoi. Je leur dis toujours, bien sûr que c'est sa maladie. Moi, je vous invite quand même à le noter ou à le dire à votre collègue, etc., pour ne pas banaliser. Alors, ce n'est pas parce que je vais le dire que demain, il ne va pas me griffer. Mais en tout cas, c'est pour dire, ce n'est pas normal que... Quand je m'occupe de quelqu'un, moi, on me griffe. Voilà. Et c'est ça qui est important. Hein. C'est pas, malheureusement, c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui sont perturbées, etc. Mais c'est important de ne pas banaliser. Et ce n'est pas normal que, quand on fait un travail, on subit des blessures, des choses comme ça. Voilà. Et en plus, je leur dis aussi, parce que ce qui est important, c'est que des fois... si on ne le dit pas, personne ne le sait aussi. Et souvent, moi, je le vois, parce que ça m'arrive donc dans les établissements d'aller avec elle, de mettre ma blouse et de faire les toilettes avec elle, justement. Et je leur demande souvent, choisissez-moi des personnes qui sont difficiles, avec lesquelles vous avez des difficultés, puisque là, moi, je ne suis pas là pour vous faire passer votre diplôme, je suis là pour vous aider dans les difficultés. Et souvent, elles me disent, oh là là, mais je me sens moins seule, il y a quelqu'un qui est avec moi et qui voit ce que je vis. Je dis, oui, mais si vous ne le dites pas, on ne peut pas le deviner non plus aussi. Hein, donc, ce n'est pas non plus pour qu'elles se plaignent, mais c'est aussi pour reconnaître que des fois, ce n'est pas facile avec des résidents, de les amener à ce qu'ils acceptent la toilette, enfin, etc. Et est-ce que c'est la forme de maltraitance d'obliger quelqu'un à faire la toilette? C'est toujours les questions, hein, aussi. Enfin, tout ça. Hein. Et donc, ça amène tous ces sujets aussi. Hein. Et justement, de ne pas systématiser. Allez, c'est le jeudi, c'est le jour de la douche, donc c'est Monsieur Dupont, aujourd'hui, qui doit faire sa douche. Si moi, je ne dis pas que je n'arrive pas à donner la douche à Monsieur Dupont, ou si que j'y arrive, mais alors qu'il me griffe, enfin, tout ça, si je ne le dis pas, ben, on va laisser que tous les jeudis, Monsieur Dupont aura sa douche. Voilà. Alors, je ne dis pas, il ne faut pas forcément qu'il n'ait pas de douche, mais peut-être aussi que si la personne dit qu'il y a des difficultés, peut-être, et peut-être qu'elle, elle a des difficultés, peut-être qu'avec une autre personne, elle en, il n'y en aura peut-être pas. Enfin, c'est revoir tout ça. Hein. C'est-à-dire que moi, je pense que pour ne pas être, pour être bien traitant, c'est aussi se réunir et discuter. Hein. C'est-à-dire que c'est souvent des décisions collégiales. On a une difficulté avec quelqu'un et on décide les choses ensemble. Ce n'est pas une personne qui décide les choses. Voilà, hein. Et on le voit bien hein, dans encore dernièrement, là, le médecin qui a décidé hein, de mettre fin, enfin, d'aider les gens à mourir. Ce qu'on lui reproche essentiellement aussi, c'est qu'il a décidé tout seul. Hein, voilà. Et ça, là, c'est ça. Hein. Lui, il pense que c'était bienveillant ce qu'il faisait, mais tout seul, non. On n'est pas objectif quand on est tout seul. Hein, et c'est aussi pour ça que c'est important de pouvoir en parler avec les équipes, etc. Et que ce n'est pas parce que j'ai, moi, des difficultés avec un résident que je ne suis pas une bonne soignante. C'est au contraire reconnaître que des fois, avec des résidents, j'ai des difficultés, mais peut-être pas avec d'autres. Et voilà, et c'est voir tout ça, voilà un petit peu. Voilà un petit peu au niveau du livre. Hein. Donc, je donne des petits tuyaux pour prendre soin de soi, des idées, etc. Plein d'exemples, voilà, où vous allez pouvoir... vous allez avoir l'impression... que j'ai rien inventé. Et je crois pas, dans ce livre, en été, j'ai rien inventé. Je dis des choses que tout le monde sait, mais je crois que c'est important, des fois, de les poser aussi, et de se dire, ah oui, ça, voilà. Et c'est un peu comme ça que moi, je pense qu'il est intéressant de travailler. C'est pas d'aller chercher des choses sophistiquées, c'est juste de poser les choses, parce que je crois que ça aide aussi, ça rassure, des fois, aussi. C'est aussi une façon aussi de vous rassurer, de vous dire, ah ben tiens, ça, je le fais bien, ah ben ça, c'est bien. Et puis aussi, c'est une façon aussi peut-être de donner des pistes et de se dire, mais oui, que je suis bête, pourquoi là, j'ai galéré toute seule, j'aurais dû en parler, etc. Voilà, hein, voilà. C'est un peu ça, un petit peu mon objectif dans ce livre, voilà, un petit peu le parcours de ce livre. Voilà, alors j'espère qu'il vous intéressera et voilà. Ce livre, il est pour tout le monde. C'est vrai que il est dans une collection de soignants, mais je pense qu'il concerne tout le monde parce que la bientraitance, la maltraitance, elle existe avec mon conjoint, elle existe avec tous les gens que je rencontre, etc. Hein. Donc c'est beaucoup d'exemples évidemment qui sont dans le cadre du soin, mais c'est aussi, vous allez voir, beaucoup de relations avec la communication, hein, comment je traite la personne, l'infantilisation, enfin tout ça hein, qui fait, mais je le vois aussi dans des familles. Hein. Dans des familles. Ce matin, c'est un truc tout bête. En allant dans la structure où je suis allée, j'entendais à une radio. Alors, c'était un truc tout idiot. C'était les rapports avec les belles-mères. Et donc, les gens appelaient, les belles-filles appelaient et racontaient un peu comment elles vivaient en rapport avec la belle-mère. Et il y avait une belle-fille qui disait... moi, ma belle-mère, elle me maltraite. Enfin, elle ne disait pas le mot comme ça, mais moi, je l'entendais comme ça parce que c'est ce que je dis pour les patients. Elle disait qu'elle était dans la pièce. Quand elle est dans la pièce, sa belle-mère parle d'elle en disant elle. Voilà. Donc, la maltraitance, elle peut exister partout. Alors, la dame de la radio, là, elle disait, alors, il y a deux cas de figure. Alors, ou votre belle-mère est vraiment très distinguée, ou en effet, oui, elle ne vous aime pas beaucoup. Hein, voilà. Et je trouve que ça résume aussi bon, voilà, un petit peu le sujet. Hein, voilà. J'ai juste envie de dire juste, et je vais laisser la place à Jacques, et il y a aussi quand même une grande évolution par rapport à la bientraitance. Il faut savoir qu'on a commencé à s'intéresser à la maltraitance. C'est assez récent, hein, c'est en 1996, quelque chose comme ça, 98, c'est-à-dire que c'est très récent quand même qu'on a commencé vraiment à s'intéresser à ça. Hein, et par exemple par rapport à la contention aussi, hein, avant on attachait les gens, on ne se posait pas de questions. Moi la première quand j'ai commencé en tant qu'infirmière, et ça date, c'était en 79, c'était un peu systématique, et moi la première je me posais pas, j'avais l'impression que c'était pour le bien de la personne de l'attacher, hein. Je dois avouer, hein, qu'il y a eu des choses que je me dis maintenant, mais ça me choque, je me dis voilà. Et donc c'est très récent aussi au niveau des contentions, hein. De mémoire je crois que c'est depuis 2006, hein, qu'il faut une prescription médicale pour les décisions, hein. je crois que c'est 2006, mais en tout cas c'est dans ces eaux-là, hein, que maintenant, bah, on ne peut pas attacher une personne comme ça, et que c'est une prescription médicale, et que ça doit être vu toutes les 24 ou 48 heures, et c'est justement pour ne pas systématiser. Hein. Comme, par exemple, aussi pour les barrières. Hein. Mettre les barrières, l'usage des barrières. Hein, on a vu que maintenant, il y avait d'autres façons, hein, de pouvoir sécuriser une personne, puisqu'une barrière n'a jamais sécurisé quelqu'un, bien souvent, parce qu'il passe au-dessus, donc il se fait encore plus mal. Et la personne a vraiment l'impression d'être en cage. Et c'est donner à manger à une personne, par exemple, et ne pas baisser les barrières quand on lui donne à manger. C'est comme, moi, je dis aux stagiaires, c'est comme si vous donniez à manger à un animal.
Sauvage.
Et oui, hein, sauvage, puisqu'il est en cage. C'est comme mon grand dada, et ça c'est un truc, combien de fois je vois dans les structures des soignants qui font les toilettes aux personnes, sur les WC, les personnes sont à poil, sur les WC. Mais pendant ce temps-là, elle fait ses besoins, je dis, mais attendez, est-ce que vous faites vos besoins pendant que quelqu'un vous tripote? Mais attends, ça choque pas. Alors, c'est vrai que je leur dis, vous voyez, et c'est ce que j'explique, parce qu'il n'y a pas la solution, mais il y a quand même des choses qu'on peut arranger. Il y a des structures où, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de place dans la salle de bain. Mais je dis, à ce moment-là, ce que vous faites juste, vous baissez la lunette, vous mettez une serviette et vous posez la personne là. Et là, c'est plus un WC. Voilà. Enfin, pour moi, c'est du bon sens aussi. Hein. Mais le bon sens, je peux l'avoir si je ne suis pas fatiguée, si je suis encore motivée, si je m'entends bien aussi avec mes collègues, si j'aime ce que je fais, hein, s'il y a de la motivation. Voilà. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Hein. Voilà. Enfin, je dirais plein de choses, mais Jacques, je ne sais pas, par rapport à ce que j'ai dit, là, déjà, peut-être...
Moi, je trouve intéressant, c'est tous les exemples qui sont là. Alors, tous ces mots qui viennent, qui permettent aussi de nommer les choses. Je crois que souvent, on fait les choses et on ne se rend plus compte, que ce soit du côté de la maltraitance, du côté de la bientraitance.
Tout à fait.
C'est très important, mon ami, de tous ces mots qui viennent, qui sont connus, mais leur succession permet d'analyser, de mettre les mots sur ce qui ne va pas bien ou ce qui pourrait aller mieux. Ça, je trouve très important. Très important de s'interroger là-dessus et de pouvoir, après, comme vous le disiez, de pouvoir aussi, après, se questionner en équipe. Le plus grand ennemi de l'éthique, c'est le conformisme. On a toujours fait comme ça. Comme ça qu'il faut faire. Mmh. Et pourquoi toi, tu fais comme ça? Regarde l'autre, et il va plus vite en faisant comme ça. Et donc, on se met à le faire, et puis on n'a plus de recul. Voilà. Voilà. Le personnage typique de l'éthique, pour moi, c'est Colombo. Voilà. C'est-à-dire que celui qui vient interroger, vous voyez, qui vient, qui dit, tiens, c'est bizarre, ma femme me dit souvent que... mais elle y connaît rien, ma femme. Et donc, on interroge, et ce qui semble évident, qui semblait bien, bien clair, brutalement, commence à apparaître un peu décalé, et on s'est dit, c'est vrai que ça pose problème. Et ça, je crois que c'est... Dans les services, surtout hospitaliers, c'est souvent les stagiaires ou les élèves qui viennent qui parfois s'étonnent de telle ou telle affaire. Et c'est vrai qu'il faut beaucoup d'humilité et d'humour pour les soignants, beaucoup aussi de capacité aussi de ne pas être tellement usé qu'on peut aussi entendre ça, pour pouvoir donc interroger des pratiques qui sont rentrées progressivement, qui sont devenues habituelles.
Ben avec la difficulté, puisque vous parlez des stagiaires, c'est que malheureusement, des fois, les stagiaires, elles voient des choses et elles n'osent pas le dire non plus, parce que c'est vrai que malheureusement, quand quelqu'un est vraiment maltraitant, il ne peut plus entendre et il est même agressif et il fait peur. Mais c'est vrai que souvent, quelqu'un d'extérieur va amener du nouveau et peut faire bouger, enfin, en tout cas, interroger les gens. peut-être pas faire bouger les choses, mais en tout cas interpeller les gens. Voilà, hein. Ça c'est sûr que c'est intéressant, ouais, les gens de l'extérieur. Voilà.
Et permettre aux soignants et à toutes les personnes de se rendre compte que en améliorant des pratiques, c'est eux-mêmes aussi qui soignent, comme vous le disiez très bien. Hein. Je crois que c'est très important aussi. C'est pas seulement vous faites mal. C'est le danger parfois des groupes de maltraitance, c'est de pointer les soignants qui font mal.
C'est terrible.
Je crois que c'est pas intéressant de reprendre ça parce que donc comment c'est tout un ensemble qui fait que aussi on dysfonctionne. Certes, il peut y avoir des individus isolés qui dysfonctionnent, ça existe, mais c'est souvent, comme vous disiez, une interaction entre l'institution. Alors je pensais à la définition, ou à l'approche de l'éthique que donne Paul Ricoeur, le philosophe. Il dit que c'est une visée. Alors ça rejoint un peu une visée de la bien-traitance, je dirais, mais la visée éthique, c'est une visée de la vie bonne. Alors la vie bonne, ça remonte au grec. C'est quoi la vie bonne pour vous, pour moi? C'est une affaire. Donc, mais c'est aussi quelque chose qui peut se négocier. Qu'est-ce que c'est la vie bonne pour l'autre et la vie bonne pour moi? Donc la visée de la vie bonne avec et pour autrui. Donc c'est pas simplement moi, même pour le bien de l'autre, imposer ce que je trouve bien, parce que c'est pas forcément ce que la personne souhaite. La personne qui n'a jamais eu de douche tout au long de sa vie, l'obliger à avoir une douche tous les deux jours, ça peut être très violent.
Tout à fait.
Voilà. Et comment on peut faire une toilette convenable sans forcément... Et puis donc, la visée éthique, la visée de la vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes. Tout n'est pas la faute des institutions, mais les institutions ne peuvent pas dire « ben non, ça c'est la faute uniquement des soignants, des individus, nous on y est pour rien ». On voit bien que les conditions de travail, les conditions de la reconnaissance des soignants par l'institution. Moi j'interviens aussi pas mal dans les formations. Je suis quand même frappé, souvent vous voyez, quand on apparaît un peu comme un expert, on vous demande « mais comment faire mieux ?». Moi, parfois, mais régulièrement, je dis, mais je suis déjà étonné que vous ayez déjà pu faire tout ça. Parce que vraiment, dans les conditions où vous êtes, avec les gens tels qu'ils sont, comme on a été dit, c'est parfois aussi les soignés qui maltraitent les soignants. Il ne faut quand même pas non plus l'oublier. Que les gens aient toujours assez d'énergie pour inventer et pour durer, moi, je suis plutôt impressionné. Alors, je leur dis, et ils me disent, mais personne ne nous le dit. Vous voyez, c'est toujours plus, jamais assez. Et on n'est pas en train de dire, ben, ce que vous faites est formidable. Les gens sont en première ligne. De choses difficiles, c'est quand même pas rien de s'occuper de personnes gravement malades, gravement handicapées, en train de devenir démentes. C'est quand même des choses, moi je suis impressionné par ce que les gens font, mais personne ne leur dit. Quoi. Vous voyez, et ça aussi, je crois que c'est quand même important, c'est des gens qui sont dire, en première ligne des choses les plus difficiles aujourd'hui. Comment ne pas vaciller quand on voit ce qu'on peut devenir en fin de vie? Ou quand on voit qu'est-ce qu'on peut devenir après un accident grave, quelqu'un qui se retrouve paraplégique, tétraplégique, grand brûlé, comment ne pas vaciller quand on voit un enfant malade qui avait toutes les promesses d'une vie, et puis du fait de la maladie grave, du handicap, de l'opération. Alors, les gens sont en première ligne de ce style-là, et comment les soutenir, comment reconnaître ce qu'ils font. Et c'est vrai que dans toutes ces professions du soin, de la sollicitude, des soins infirmiers, ce sont des professions qui sont un peu dévalorisées dans nos sociétés. Je crois qu'il faut quand même le dire. Ce sont des professions féminines qui sont mal payées, qui ne sont pas considérées. Et plus on descend, vous voyez, c'est bien, ça veut dire déjà infirmières, soignantes, agents de services hospitaliers, ça devient du personnel invisible. On ne les voit plus, on ne s'adresse jamais à eux. Et ça aussi, c'est quand même terrible. Alors, faisons de la formation d'agents de services hospitaliers. Donc, c'est des gens qui font le ménage dans une chambre. Et on me dit, faites très attention, soyez simples, parce que c'est des gens qui n'ont pas un gros bagage intellectuel. Moi, je suis frappé par l'énergie de ces gens-là.
Tout à fait.
Qui sont témoins, alors, de maltraitance par les médecins. Je suis médecin, je peux le dire. Par les médecins ou l'administration, qui ne peuvent rien dire, parce qu'ils sont un peu... mais qui sont témoins de choses. Et entre autres... qui voient des fautes d'hygiène importantes de la part des médecins ou des chefs de service. Le jour où on aura avancé, c'est quand vous pourrez, vous, agent de service hospitalier, qui avait été bien formé pour les conditions d'hygiène très, très rigoureuses, qui déjà dites parfois qu'à cause des rhumes qu'on vous donne, vous ne faites pas le ménage comme il faudrait faire, et donc un problème d'hygiène, mais vous voyez aussi des fautes d'hygiène parfois graves de la part des médecins, mais le jour où vous pourrez dire, monsieur, madame, dames, sauf votre respect, je crois que là, vous n'êtes pas très bon. Et si vraiment on veut tous se battre pour améliorer la lutte contre les maladies nosocomiales, c'est bien un effort de chacun, eh bien, je crois qu'on aura gagné. On en est loin.
Hein. Ben oui.
Voilà. Mais vous voyez, c'est pour que ce soit vraiment un travail d'équipe où on a besoin de chacun. Les gens dans le service hospitalier, pour les conditions d'hygiène, parfois sont plus alertés sur tous les petits gestes qui sont positifs ou négatifs que les médecins. Et je crois que c'est quand même important de pouvoir aussi rentrer dans cette dynamique-là. Je l'ai dit aux médecins hein, depuis. Donc, je crois que c'est intéressant de pouvoir être attentif. Et c'est vrai que c'est donc un personnel que souvent on ne voit plus. Et ça, je crois que c'est quand même redoutable. Parce qu'effectivement, les causes de maltraitance, comme vous le dites bien, c'est des uns et des autres. Et ça, je crois que c'est quand même important de pouvoir être attentif à ces affaires-là. Parce qu'on peut faire des grands débats sur l'éthique. J'en fais pas mal, des grands topos sur l'éthique, mais si on n'est pas attentif à ces questions pratiques au quotidien, Moi je pense que faire de l'éthique, c'est vraiment d'abord partir des pratiques.
Voilà,
et ça, tout votre livre vraiment est passionnant parce qu'on est vraiment en plein cœur de la démarche, du partir des pratiques les plus immédiates et les plus banales, quotidiennes. Ouais. Et voir en quoi, effectivement, dans ces pratiques-là, il y a du respect qui se fait ou de la maltraitance qui arrive. Et ça, plutôt que... Parce que les cours sur la maltraitance... Alors, votre livre en fait... Il faut faire de la théorie, à un moment donné. Donc, c'est bien de... On n'est pas les premiers à y réfléchir. Il y a des choses qui ont été faites avant nous. C'est bien de les rappeler, de les représenter. Voilà. Et en même temps, on peut faire un topo théorique et après être très... très bon sur la théorie, et puis en pratique, être aussi maltraitant que les autres.
Oui, mais de toute façon, déjà, vous voyez, comme vous avez dit, Jacques, par rapport à la maltraitance, dire aux gens, vous êtes maltraitant, enfin, etc., c'est pas bien ce que vous faites. Moi, j'estime que si je fais ça, je suis aussi maltraitante envers l'autre. Parce que finalement, je trouve ça intéressant, c'est que je peux au contraire lui dire, bon ben voilà, avec ce que vous avez fait, comment vous pourriez faire, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et c'est de l'amener à une réflexion plutôt que de le juger, le casser. Voilà. Du coup, il va se planquer, il va faire dans un coin, enfin voilà, et où il va se dévaloriser, et puis là, voilà. Et c'est ça aussi, c'est donc vraiment un ensemble, c'est tout le monde est concerné.
Vous disiez bien, dans mon titre de la partie 2, c'est comprendre la maltraitance. Vous voyez, c'est pas seulement on constate un événement qui est manifestement maltraitant, mais d'où ça vient ? Pourquoi il y a ça ? Vous voyez, on n'est pas en train de dire c'est vous qui dysfonctionnez. C'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, effectivement, tel acte, telle parole, vraiment, et plutôt du côté de la maltraitance, d'où ça vient ? Essayez de comprendre. Moi, j'ai trouvé intéressant cette attitude-là où. Moi, je le dis souvent, est-ce qu'on peut dire, sur cette affaire-là, nous n'avons pas été bons ? Donc, ce n'est pas telle personne qui a dysfonctionné. Tout à l'heure, vous l'évoquiez pour les dysfonctionnements qui ont lieu la nuit. Quand il y a eu l'affaire quand même de Mantola-Joly, donc où cette infirmière se retrouvait toute seule la nuit, il y a eu quand même une vingtaine, je crois, d'actes d'euthanasie. Les collègues disaient « Ah, c'est elle qui est de garde, demain, il risque d'y avoir un mort ». On voit bien que les éléments, elles, dysfonctionnaient, manifestement, c'est elle qui est responsable, c'est elle qui a fait les actes. Hein. Mais en même temps, les autres éléments qui devraient servir de garant, de garde-fou, si j'ose dire, n'ont pas fonctionné. Alors, les responsables de la maison disent « Ah, ben, c'est pas nous, c'est elle ». Mais surtout que c'est « Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Nous n'avons pas été bons, je dirais, si j'étais dans l'équipe, pour que cette affaire-là, non seulement existe, mais se développe et qu'on ait fermé les yeux ». D'une certaine manière, pour l'affaire de Bayonne, c'est quand même les soignants qui, à un moment donné, ont dit on ne peut pas couvrir ça. Et je trouve que cet homme-là a dysfonctionné. Il y avait des actes qui sont graves, qui sont liés au manque de négociation. Mais je crois qu'il y a des questions personnelles éminemment respectables. Mais il n'est pas bon qu'il continue à faire la médecine comme ça. Mais en même temps, je trouve que c'est important que les soignants aient signalé. Parce que c'est une responsabilité commune.
Voilà, on est quand même impliqué. Hein. C'est bien que vous parliez de ça, parce que c'est ce que j'essaye de dire aux stagiaires aussi. Hein. C'est qu'on est quand même impliqué, quoi qu'on veuille, par rapport à ce que ce soit la maltraitance ou la bientraitance. On a quand même une part de responsabilité, alors qui est plus ou moins grande en fonction des choses, mais on est impliqué, voilà. Et on ne peut pas être indifférent en disant moi, j'en sais rien, moi, je ne veux pas savoir, ou c'est grâce à moi, etc. C'est quand même... C'est un ensemble de choses. Et ça, je crois que c'est... très important. Et vous voyez, je suis très surprise beaucoup dans les établissements où je vais, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas les lois qui ont été faites, justement, la loi de Leonetti. Enfin, je leur demande, c'est les soignants, ils ne savent pas. Et donc aussi, il y a plein de choses que... Alors quand même que c'est... Je trouve des choses qui ont bien fait avancer, justement, par rapport à la réflexion, par rapport à la bientraitance, etc. Ils ne sont pas au courant. Et donc, il faut savoir que moins on est au courant, plus on y a de chances qu'on devienne maltraitant aussi. Hein, et d'ailleurs, il y a eu beaucoup, beaucoup de maltraitance par ignorance. Et avant, quand il y avait moins de... Maintenant, c'est un peu mieux réglementé au niveau des professionnels. Donc, qu'ils aient un diplôme, qu'ils aient une formation. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de maltraitance parce que les personnes, par exemple, on leur disait, tu fais ta toilette ce matin. Toi, tu fais pareil au monsieur, c'est pareil. Tu fais comme si tu faisais ta toilette. Et la fille qui n'avait jamais eu de formation, de choses comme ça, elle se dépatouille. Donc, il faut savoir aussi que la maltraitance vient aussi par ignorance. Et donc, il y a plein de choses qui ont été faites dans le bon sens, vers la bientraitance. Et je vois qu'il y a beaucoup de soignants. Pourtant, ils me disent, mais si on nous en a parlé à l'école, et puis... ça. Et je dis, mais vous vous rendez compte, pour vous, dans votre exercice important, et je dis même pour vous, si un jour vous êtes malade, c'est bien que vous sachiez aussi... les droits que vous avez, etc. Ils ne savent pas.
Pas pour rien que le mois dernier, au mois d'octobre, l'Ordre des médecins a fait un numéro spécial de la revue de l'Ordre des médecins sur les droits des malades. Ouais. Il y a une chance pour tous les professionnels. Et donc, on voit bien que ça bloque. Parce que faisant des débats avec les médecins ou des tables rondes ou des formations avec les médecins, je vois bien que la loi du 4 mars 2002, c'est bientôt 10 ans quand même. Ouais. La loi Leonetti, 22 avril 2005, c'est bientôt 6 ans. On est dans l'ignorance complète. Et dont les gens voient ça plutôt comme des gênes à la pratique. Quand on travaille ces lois, alors parfois, oui, c'est un peu compliqué, mais c'est souvent des lois qui donnent un cadre. C'est pas d'abord des sanctions, c'est d'abord, je pourrais dire, une lecture éthique, c'est parlez-vous, travaillez ensemble, revisitez vos pratiques, ne rentrez pas dans le conformisme, alors avec des règles, avec des cadres, c'est pas que cette
position de principe,
mais c'est une manière de revisiter les pratiques. Tout ce qu'on peut faire en droit, tout ce qu'on peut faire en morale ou en éthique, c'est des règles générales. Et les gens sont dans des lieux particuliers, au bon soleil, au beau secours, et avec des personnes très singulières aussi, donc à un moment très, même aussi très difficile de leur vie. Et ça, la loi ou les grands principes ne pourront jamais singulariser. Donc c'est aux professionnels, administratifs, comme soignants, à inventer. Il faut être très créatif à inventer dans ce lieu-ci, où on n'a pas tous les moyens, avec ces personnes-ci qui sont ce qu'elles sont, qu'est-ce qu'on peut inventer qui soit vraiment le mieux adapté ou le moins mal adapté aux personnes. Et quand on est dans cette dynamique, ce que vous disiez au tout début, je crois que là, moi, parfois, je n'ai pas grand-chose à dire, sinon, de continuer là-dessus. Mais c'est vrai que souvent, on voit ça. Alors, j'ai quand même une critique. On a dit beaucoup de bien. Vous allez voir. Mais ça pourrait être l'occasion d'un autre livre. Parce que ce que je vois beaucoup, moi, comme question de maltraitance, vous le dites, autour de la question de l'intimité, autour du secret, mais dans la partie sur le secret, c'est plus des éléments juridiques que vous donnez, qui peuvent être développés. Je crois qu'aujourd'hui, un des hauts lieux de la maltraitance, moi qui m'inquiète beaucoup, c'est le manque de confidentialité, c'est le manque de discrétion, c'est vraiment la remise en cause du secret, où... au nom du bien, la bientraitance ou bon traitement de la personne, tout le monde se met à savoir plein de choses sur la vie personnelle, privée, voire médicale, qui ne sont pas forcément utiles pour ses soins. Mais je trouve qu'on bafoue beaucoup la question du secret. Alors, j'arrête pas de dire aux professionnels qui parlent trop. Je crois qu'il y aurait quelque chose à faire. En plus, avec les dossiers maintenant informatisés, où beaucoup de soignants de même établissement peuvent consulter les données, même pour les malades dont ils ne s'occupent pas.
Tout à fait.
Parce que ça aussi, je trouve ça très inquiétant, cette affaire-là. Et je crois que là, peut devenir un haut lieu de maltraitance où on n'a pas besoin de tout savoir.
Tout à fait. Et ce que vous dites, justement, c'est complètement juste. Moi, j'ai une amie qui travaille dans un établissement en tant que cadre. Elle regarde en intra, etc. Elle s'était fait soigner dans cet établissement quelques années avant, 2 ans avant. Et finalement, elle voit que son dossier... tous les soignants ont accès à son dossier. Vous voyez, un peu. Donc elle va voir donc le directeur et dit, mais vous vous rendez compte, moi ça ne regarde personne. Mais comme ça a été une patiente avant et qu'elle est devenue, donc elle a eu un poste dans cet établissement après, elle voit ça. Et voilà, vous voyez déjà au niveau de la confidentialité, là, finalement, tout le monde était au courant de ce qu'elle avait eu il y a 2 ans dans cet établissement.
On a mis au point des systèmes de sécurité en aval, c'est-à-dire que si quelqu'un porte plainte parce qu'on est au courant, on peut voir qui c'est qui a été allé consulter le dossier alors qu'il n'aurait pas dû le consulter. Mais il n'y a pas tellement de verrouillage en amont. Moi, je trouve ça très grave, très préoccupant, parce que normalement, on ne doit connaître le dossier que les gens qui traitent à la personne. Et moi, j'étais alerté là-dessus sur un établissement de l'agglomération bordelaise, où effectivement, un médecin dit à un autre, il faut que je te parle de Madame Untel, parce que vraiment, elle me pose question, et j'aimerais bien avoir ton avis. Puis 2 jours après, j'ai oublié de te faire passer le dossier, excuse-moi. Et l'autre médecin dit, mais je l'ai consulté. Comment tu l'as consulté? Eh bien, j'ai pianoté, puis parce que comme je suis médecin, j'ai accès à tous les dossiers. J'ai appris ensuite, parce que beaucoup de soignants aussi avaient accès au dossier. Moi, je trouve ça très préoccupant. C'est-à-dire que si moi je suis soigné dans un hôpital où je connais d'autres médecins ou d'autres soignants, comme vous disiez, je n'ai pas envie que tous les médecins que je connais sachent de quoi je souffre. Donc il y a un vrai problème. Là, on a mis alors, sous couvert d'informatisation et d'amélioration de la communication, ce qui faisait la garantie du secret pendant longtemps, c'est qu'on perdait les dossiers. Il ne faut pas l'enregistrer. Mais de fait, maintenant que ça circule de manière électronique, ça me semble quand même être un gros problème. Parce que je crois qu'on n'a pas besoin comme ça que l'information circule, même si ce n'est pas des choses... on n'a pas besoin. Alors ça, je crois que le secret professionnel, qui était quand même un des grands points depuis Hippocrate de toutes nos professions soignantes, aujourd'hui, au nom d'une amélioration de la formation pour mieux soigner, est très bafoué. Et je trouve que ça met en cause la confidentialité qui est peut-être aussi un des hauts lieux de maltraitance.
Alors, ça me fait penser, moi je suis d'accord avec ce que vous dites, et ça me fait penser à autre chose aussi par rapport à ça. C'est aussi le fait d'avoir voulu garder le secret, etc. C'est que maintenant, on avait proposé donc aux équipes d'appeler les personnes plutôt par leur nom, etc., et de les appeler par la chambre 14, la chambre, voilà, et qui a aussi son travers aussi. C'est si bien que du coup, beaucoup de professionnels ne voient plus un homme derrière le numéro, mais ne voient plus qu'un numéro aussi, ou le côté fenêtre, le côté porte. Et du coup, ça fait aussi... c'est vrai que c'est compliqué, ce problème de confidentialité, de secret, etc. C'est que moi, je crois aussi que des fois, le fait d'avoir un peu voulu... pas nommer les gens pour que justement on ne sache pas qui c'est. Finalement, après, derrière, c'est un numéro. On ne sait même plus comment il s'appelle cette personne aussi. Donc, c'est vrai qu'il faut être très vigilant dans les 2 sens, je pense, par rapport à ça. Je pense que c'est vraiment très important. Mais là, je pense que c'est des choses qui vont de plus en plus venir. Avec l'informatique, etc., on va s'apercevoir, évidemment. Il y a beaucoup de choses qui sont mieux quand même, etc. Et puis après, rectifier des choses aussi qui vont amener... à faire attention, à ce genre de dérive qui est terrible, quoi. Ça, c'est sûr, par rapport au secret professionnel, à la confidentialité, à mon intimité, à savoir... ça, c'est sûr, je suis tout à fait d'accord. Mais donc, je pense que ça sera vous qui allez faire le 3e livre.
Ensemble.
Voilà. C'est vrai qu'il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à ça, ouais. Bien sûr, c'est...
Merci beaucoup. Vrai.
Moi, je vous remercie en tout cas,
merci
Jacques,
à vous
et puis à toutes ces personnes qui ont participé
à cette rencontre.